Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Si je ne me suis pas trompée, nous sommes aujourd'hui le 25 décembre, en tout cas si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie. Et pour l'occasion, pour Noël, j'avais envie de faire un épisode bonus pour les vacances. Un épisode FAQ où je réponds donc aux diverses questions que vous m'avez posées suite à ma proposition. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais j'en ai sélectionné plusieurs. Je vais essayer de répondre de façon rapide pour pas que chaque question soit presque un épisode entier. Donc il y aura sûrement de la frustration, mais j'espère qu'il y aura quand même quelques pistes à porter. Alors je commence avec une question. Comment interpréter un refoulement systématique du rêve? Alors en fait, le refoulement, on ne le perçoit pas en tant que tel. C'est-à-dire que si on se dit « tiens, j'ai refoulé ça », c'est que du coup, ça n'a pas été refoulé, puisqu'on l'a en tête. Par contre, je pense que derrière la question, il y a sûrement l'idée que certains ne se souviennent pas de leur rêve. Déjà, il y a une explication biologique, donc je ne vais pas m'avancer ici, mais suivant les personnes, il y a plus de facilité à se souvenir du rêve, en fonction aussi de si on a des micro-réveils qui permettent donc d'inscrire le rêve. Parce que si ce n'est pas le cas, on ne peut pas se mettre le souvenir du rêve dans la mémoire à long terme. Donc ça dépend beaucoup de si vous pouvez aussi être réveillé pendant votre sommeil paradoxal. Si vous dormez comme un loir et que vous dépassez le sommeil paradoxal, peu de chances que le rêve s'imprime réellement. Donc il y a vraiment aussi une question de cycle qui n'est pas du tout au service du refoulement. Après, peut-être que vous avez l'impression d'avoir rêvé de quelque chose en particulier, peut-être de façon récurrente, mais que c'est difficile d'avoir accès à ceux ou ces rêves. Il y a cette sensation au réveil de ne pas arriver à inscrire, à imprimer peut-être le discours, le souvenir. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faut différencier le rappel du souvenir. C'est-à-dire qu'on peut se rappeler d'un rêve sans s'en souvenir. C'est ce qu'amène Freud en tout cas. C'est-à-dire que vous ne vous dites pas « tiens, j'ai rêvé de ça », mais vous agissez, par exemple. Vous allez prendre telle décision, vous allez avoir telle action, tel comportement, ressentir telle sensation, qui sera potentiellement une trace en fait de ce rêve-là, de ce que vous avez traité la nuit. Donc c'est une bonne question qui mérite à être pensée plus amplement dans un cadre thérapeutique, souvent, si en tout cas vous avez ce cadre-là de disponible. Mais il ne faut pas être inquiet d'avoir l'impression de ne pas se souvenir du rêve. En réalité, il y a souvent des rappels. Puis peut-être que le contenu du rêve, il n'est pas disponible pour être pensé. Il vaut mieux qu'il soit refoulé s'il n'est pas accessible. C'est qu'il devait être comme tel. Ensuite, on me demande comment penser la fluidité du genre, donc la difficulté et en même temps le goût pour naviguer d'un genre à l'autre d'un point de vue analytique. Alors je suis désolée, mais je ne vais pas répondre à cette question, tout simplement parce que j'apprécie énormément, enfin j'ai beaucoup d'intérêt pour ces questions actuelles du genre et j'aimerais vraiment faire un épisode dédié à ces questions-là. Et je ne sais pas encore exactement dans quel angle le prendre, mais j'espère que voilà, vous n'allez pas m'en vouloir, mais je ne vais pas répondre maintenant à cette question parce que j'aimerais beaucoup plus la développer, là je risque de d'être moi, après, quand je vais me réécouter, assez frustrée de tout ce que j'aurais pu penser, apporter pour cette question. Donc je passe, mais voilà, c'est une envie partagée, en tout cas, de penser le genre d'un point de vue aussi analytique. Prochaine question. Comment comprendre l'hypocondrie ? Alors, l'hypocondrie, en fait, elle a de sens que quand elle est reliée. D'ailleurs, comme tous les autres troubles ou pathologies, c'est quand ça prend quand même forme chez une personne concernée qui l'exprime, en fait. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas qualifier, par exemple, l'hypocondrie de se dire « Ah bah oui, c'est une structure névrotique » ou alors « C'est une structure, je sais pas, psychotique » ou que sais-je. En sachant qu'on comprend un symptôme qu'en écoutant le sujet, la personne qui le porte. Néanmoins, je sais que Freud y rangeait l'hypocondrie plutôt du côté des névroses actuelles avec tout un parallèle autour du narcissisme. Donc, je ne vais pas avoir le temps de tout développer ici, mais d'un point de vue de ces réflexions, on peut se dire quand même que moi, quand j'y réfléchis, dans l'hypocondrie, il y a quand même quelque chose entre le dedans et le dehors qui est à penser. Donc, c'est-à-dire, est-ce que l'anxiété de l'hypocondrie concerne le dehors, donc se sentir souvent envahi, voire persécuté par le dehors, se disant qu'on est angoissé de façon permanente à ce que l'environnement apporte quelque chose de mauvais, des bactéries, nous salissent, nous rendent malades. Ou est-ce qu'on peut aussi penser à l'hypocondrie de l'intérieur, c'est-à-dire pour certaines personnes, c'est le corps propre en tant que tel, son fonctionnement, ses organes, qui seraient porteurs de quelque chose qui pourrait faire du mal, rendre malade, et donc l'angoisse d'échapper à ce contrôle-là de l'interne. Donc toute une question aussi autour de soi, de ce qui est menaçant, ce qui est angoissant, parce que justement, dans l'hypocondrie, je trouve ce qui est assez singulier, c'est justement cette difficulté à se représenter le danger. Souvent d'ailleurs, la personne qui vit ça, elle a pas vraiment peur de la maladie, mais elle la sent. Donc il y a toute une piste de réflexion autour de la maîtrise. D'ailleurs, il y a souvent, je trouve, une recherche assez accrue de savoir ce qui dysfonctionne. Il y a une grande souffrance du côté de cette crainte, parce qu'il y a beaucoup de temps qui est passé pour lire, pour décortiquer, pour regarder, pour investiguer. Donc malgré la difficulté à se représenter le bénéfice, il y a quand même le plaisir du regard, donc aussi la forme de jouissance par rapport au corps. Donc encore une fois, voilà, à investiguer, à s'auto-observer. Il y a toute une surintellectualisation du corps qui, du coup, en fait, donne une déconnexion de son écoute. C'est-à-dire que c'est assez particulier parce que quand le signal est parasité, c'est quand on est dans cet excès de confirmation qu'un signal s'est produit. Je sais pas si je suis claire, mais en fait, le paradoxe, c'est que pour moi, la santé, elle est quand même régie par l'idée qu'on n'y pense pas, en fait. C'est-à-dire que lorsque tout va bien, on oublie qu'on a un corps qui fonctionne. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous le fait, mais souvent quand on a un rhume, on est presque nostalgique du moment où on respirait normalement, on se dit qu'on n'a pas assez profité de notre nez, enfin de notre toux qui ne nous gênait pas. Donc en fait, la santé, c'est quand même l'absence de mentalisation, de conscience du corps qui tourne. Puis quand on a un corps, justement, relativement silencieux. On oublie, en fait, qu'on est en bonne santé, qu'on va bien. Et dans l'hypocondrie, justement, la personne hypocondriaque, elle est en permanence sur ce regard du fonctionnement de la machine du corps, dans une perpétuelle écoute du corps qui ne dit rien. On entend toujours des petits bruits si on écoute le silence. Donc quand on y fait attention, on va toujours trouver quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de maladie hein, pour l'hypocondriaque. Hein. Bien sûr que l'hypocondriaque, comme tout le monde, peut être malade. Et souvent, c'est confirmé après aussi. Hein. Mais en l'occurrence, là, ça se fixe quand même assez partout. Et il y a vraiment une recherche aussi inconsciente de parasiter la parole du corps, puisqu'on interprète avant même que le corps énonce, s'il en vient à énoncer un jour. Et d'ailleurs, dans chaque maladie, il y a quand même de l'hypocondrie, hein. Il peut y avoir des moments hypocondriaques aussi dans la vie. Je pense aujourd'hui qu'on peut tout à fait le penser avec la situation sanitaire. On vit quand même un moment où l'extérieur, il apparaît comme dangereux, l'autre aussi, celui qu'on croise, celui avec qui on est à côté, qui peut être source de contamination. Donc ça vient soulever beaucoup de choses. D'ailleurs, je pense que voilà, ce contexte, l'environnement joue beaucoup. On est dans une surécoute de notre corps, donc on peut avoir l'impression d'avoir la gorge qui gratte, d'avoir de la fièvre, un mal de tête, comme directement signifiant du virus ou de la maladie. Et ça parasite, justement, vous vous en rendez bien compte, de l'écoute du corps. Parce que quand on est dessus, on alerte en permanence, en fait, on n'entend plus rien. C'est d'ailleurs intéressant de penser ceux qui vivent, justement, et qui souffrent d'hypocondrie, comment ils perçoivent la situation actuelle. Et je sais que pour certains, l'anxiété, elle est augmentée, mais pour d'autres, l'hypocondrie collective, elle vient rassurer et apaiser l'hypocondrie individuelle. C'est intéressant quand même, hein. En tout cas, voilà, c'est très lié quand même à l'angoisse qui a du mal à se représenter le conflit, qui ne fonctionne pas. Donc il ne faut pas oublier que dans l'hypocondrie, c'est de l'angoisse. Après, c'est intéressant de savoir si l'angoisse, elle concerne la santé ou la maladie, quel organe est investi, quelle partie du corps, à quel moment. Donc du côté de la phobie, mais la phobie du dedans, de son corps. Est-ce que le risque, c'est d'être en bonne santé? Est-ce que le risque, c'est de n'avoir rien, au final aussi? C'est un risque aussi de ne pas être malade. Donc beaucoup de réflexions autour de l'hypocondrie. J'espère en avoir apporté quelques pistes de réflexion. Alors je vois que je commence déjà un peu trop à développer. Il va falloir que je sois plus rapide. Alors ensuite, quel est le tarif idéal d'une séance ? Y a pas vraiment de tarif idéal, hein, ça dépend d'énormément de facteurs, déjà la région, la fréquence, la thérapie, le thérapeute, les moyens de la personne. En fait, c'est quelque chose qui peut se penser uniquement avec la rencontre du psychologue, du thérapeute. C'est marrant d'ailleurs de penser l'idéal en fait. Est-ce que l'idéal c'est pour qui ? C'est pour soi ? C'est pour le travail du psy ? C'est pour bien rémunérer son thérapeute ? D'ailleurs, combien ça coûte, en fait, d'aller mieux? Peut-être que vous avez écouté mon épisode sur le cadre où je donne quelques éléments de réflexion, mais d'ailleurs, il y a plusieurs questions qui sont un petit peu dans ce sens-là. Je me souviens qu'il y en a une, je vais voir si je la retrouve. Ah oui, voilà. Comment est décidée la fréquence des séances? En fait, c'est un peu pareil parce que c'est décidé toujours avec le thérapeute, donc souvent c'est quelque chose qui vient dans les premières séances, en fonction de comment travaille le ou la psy. Est-ce qui est possible pour le ou la patiente? Parce qu'en fait, la personne, elle développe en me demandant en plus dans sa question si par exemple une fois par mois c'est bien ou si une fois par semaine ce n'est pas trop intensif. Et est-ce dû au temps difficile en période de crise pour les psys? Et c'est intéressant ces questions parce que elles sont régulières. Je pense que c'est bien d'oser les poser. Et j'ai pas envie de faire de la psychologie de comptoir, même si on se retrouve quand même au comptoir de la psychologie, justement, c'est le petit jeu de mots. Mais je peux dire que dans la question, il y a quelque chose qui sûrement est pas neutre, qui relève ou révèle aussi la rencontre avec le ou la psy. Parce qu'on peut se demander, qu'est-ce qui fait que le psy choisit ou propose telle fréquence? Si c'est une fois par mois, on pourrait se dire, pour certains, peut-être parce qu'en fait, il aurait pas envie de nous voir plus, hein, le psy. Si c'est une fois par semaine, est-ce que c'est parce qu'il a besoin de thunes? Est-ce que le psy est avare? Ou est-ce qu'il bouscule trop une fois par semaine, donc c'est trop intense pour nous? Mais en fait, vous voyez bien que c'est le transfert, quand même, tout ça. C'est-à-dire que ce qu'on vit est quand même toujours projeté dans l'espace thérapeutique. C'est donc important d'en discuter avec son thérapeute. Ça montre bien, et j'espère avec mes épisodes et aussi là dans cette réflexion, qu'il n'y a pas de question vraiment neutre ou de pure curiosité intellectuelle. Que c'est quand même aussi toujours pris et nourri dans la rencontre avec cet espace thérapeutique. Parce que d'ailleurs, j'ai même des fois des questions où c'est le contraire. On me demande, est-ce qu'une fois par semaine, c'est suffisant? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux deux? Donc la question, elle aurait pu être tournée dans tous les sens. Et donc, au-delà quand même des réflexions qui, je pense, sont à penser de façon individuelle, de façon concrète et peut-être un petit peu plus théorique, pardon, rapidement, il y a la fréquence aussi des séances qui est pensée en fonction du cadre du psy. Donc, souvent, en fonction de son orientation et des besoins et de la réalité du patient. C'est-à-dire qu'un psychanalyste, par exemple, il va quand même proposer des séances souvent plus rapprochées, si c'est possible, parce qu'une analyse, ce n'est pas une fois par mois. Au-delà de ça, je sais que moi, à titre professionnel, enfin pour ma part, ça dépend aussi de la demande. Est-ce que c'est une volonté d'un espace de parole pour venir un petit peu décharger certaines choses de temps en temps? Donc peut-être que dans ce cas-là, une fois par mois, pourquoi pas? C'est le moment un petit peu de libération, même si ça reste à interroger quand même, hein, de qu'est-ce qui fait qu'on tient un espace comme ça une fois par mois juste pour venir déposer et ne pas en reparler pendant 4 semaines après. Ou est-ce que justement il y a un travail de déconstruction, de reconstruction, de nouage, on brode, on interroge, on va creuser, et dans ce cas-là, il faut que ce soit quand même régulier. Moi, clairement, je pense qu'il faut que ce soit une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours à la limite, si on a envie d'être dans cette démarche-là, mais ça sera d'ailleurs un peu moins évident si une fois tous les 15 jours. Parce qu'en fait, d'une séance à l'autre, les défenses, elles se reconstruisent. Donc en fait, plus l'espace est régulier, rapproché, plus on va être dans cette bulle, dans l'introspection, plus on avance. Clairement, une fois par mois, ça fait 12 fois par an, ça risque de pas beaucoup faire avancer les choses, mais peut-être que c'est ce qu'on cherche aussi. Hein. Et au-delà que ce soit lent, il y a un risque qu'il ne se passe pas grand-chose. Le temps de se remettre dans la séance, de faire du sens, du lien dans ce qui se passe entre les séances, d'associer, de voir ce qui se bouge à l'extérieur, dans la rencontre, de se laisser aller, il faut que ce soit quand même assez régulier. Donc rassurez-vous, je pense pas que ce soit parce que votre psy n'arrive pas à se payer un bon repas à Noël ou sa facture d'électricité, qu'il dit bon, allez, le prochain patient, je lui dis une fois par semaine, parce que là, hein, c'est bon, on va arrêter de manger du pâté, on mangera du foie gras. À l'année même. Non, je rigole, mais c'est marrant parce qu'il y a toujours quand même ce fantasme, hein, ces idées au final que le psy pourrait se servir de ce statut. Ça vient dire aussi les questionnements autour de ce métier, hein, de ce qu'il représente, est-ce que c'est un vrai métier, d'où viennent les choix. En tout cas, il faut se dire que c'est pensé dans ce cadre-là, comme je l'ai présenté dans l'épisode sur le cadre. Donc très intéressant, c'était une très bonne question, merci. Prochaine question. Est-ce qu'un trouble du spectre autistique avec accès au langage exclut toute névrose? Dit autrement, est-ce que l'autiste peut être névrosé et peut-on dans un diagnostic avoir une difficulté à différencier psychose, ni névrose, voire borderline? Peut-être à réserver pour une série autour du spectre de l'autisme? Alors, oui, je pense qu'en effet, ça mériterait un épisode entier, parce qu'alors là, aborder l'autisme en 2 minutes pour une question, c'est quand même très délicat. D'autant plus que c'est vrai que c'est toujours difficile de parler de l'autisme en psychologie, notamment en psychanalyse, parce que certains psychanalystes ont eu des propos très violents autour de l'autisme, et notamment de la cause de l'autisme. C'est donc encore aujourd'hui assez difficile à rattraper tellement ils sont allés loin dans leurs conneries. Donc le sujet est délicat. Déjà aussi parce qu'il y a une multiplicité de facteurs qui sont étudiés pour comprendre les origines de l'autisme, et qu'aujourd'hui il n'y a pas encore grand-chose qui peut être affirmé. J'avoue qu'en plus je suis toujours un petit peu critique de cette perpétuelle quête de l'origine, puisque c'est toujours tourné autour de quelque chose qui pour le moment nous échappe, et au lieu de penser ce qui se passe dans l'ici, dans le maintenant pour la personne qui est atteinte de ce trouble, on en oublie en fait la souffrance pour la personne et pour l'entourage, et donc de comment en fait penser l'actuel. Donc quand en fait il y a un TSA, donc un trouble du spectre autistique, pas un TCA, c'est pas un trouble du comportement alimentaire, un TSA, trouble du spectre autistique, l'accès au langage, c'est vrai, et au symbolique est régulièrement ce qui fait aussi difficulté, mais l'accès au langage, c'est pas ce qui signe plutôt un fonctionnement névrotique ou psychotique, ni ce qui exclut. Parce que c'est que l'accès au langage, ça permet sûrement des capacités de compréhension, d'accompagnement. Peut-être que lorsque le diagnostic est fixé, c'est quand il y a accès au langage commun, du moins, qui peut être entendu et communiqué par tous. Parce qu'on est peut-être dans un autisme souvent dit de Kanner ou de Asperger, ça dépend. Mais aujourd'hui, encore une fois, l'étiologie de l'autisme, elle n'est pas connue, donc il y a beaucoup d'hypothèses, mais pour le moment, il n'y en a pas une qui se veut unique, comme pour beaucoup d'ailleurs. Plus il y a de découvertes, plus on se rend compte de la multitude des possibilités. Les causes sont très diverses d'un enfant à l'autre. si un enfant est autiste, il y a 70% de risque que son frère ou sa sœur jumelle, donc monozygote plutôt, le soit. Mais donc ça veut dire qu'il y a aussi 30% de chance, si ça en est une, que le jumeau ou la jumelle ne le soit pas. Donc c'est aussi énorme. Moi j'avais fait un stage quand j'étais étudiante où je rencontrais des enfants atteints du trouble du spectre autistique. Donc, c'était il y a un moment, mais ce que je peux dire c'est que au-delà du trouble caractéristique, il y a autant d'enfants autistes qu'il y a de formes d'autisme. Donc bien entendu, comme chez chacun, ils avaient tous leur personnalité, leurs craintes, leurs liens, toutes les différences qui nous qualifient en tant qu'humains. Hein. Donc on peut pas avoir une pensée très générale. En plus, moi c'est que je me souviens que au départ c'était pas évident hein, d'entrer en lien avec ces enfants, d'être dans une relation. Parce que la communication, enfin moi c'est ce que j'avais vécu à ce moment-là, était au départ tellement diffractée et donc diffractante avec ses enfants, que ça pouvait me laisser un petit peu dans une situation de submersion, où des fois j'ai pu me sentir dépossédée de mes capacités d'écoute. Et donc je me souviens, les premiers jours de mon stage, c'est tellement angoissant, cette relation, ce lien, que ça me mettait un petit peu dans une fausse rencontre. Donc j'étais un petit peu peut-être dans des verbalisations assez banales, qui sous-tendait un petit peu un évitement de contact et donc une rupture du lien. Parce que c'est vrai que des fois le mutisme, ou alors le trop rapproché chez certains enfants autistes, ça peut être assez angoissant dans les premiers jours. Mais en réalité, j'ai énormément appris dans ce stage, dans mon écoute, parce qu'elle est bousculée, donc on n'est pas dans la névrose, on n'est pas dans la psychose, selon moi. Du moins, on peut pas l'entendre comme l'entend la psychiatrie, justement, aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'il faut toujours se dire, selon moi, que les angoisses, elles sont différentes d'un enfant à l'autre. Ce qui est caractéristique, c'est qu'il y a de l'angoisse, justement, et que souvent c'est innommable, tellement c'est intense. Donc peut-être qu'en fonction du caractère de l'angoisse, on peut se dire que ça peut être plus rapproché de la névrose ou de la psychose, sans être catégorisé en tant que tel, mais c'est pas ça qui va faire sens. Je ne sais pas si la personne, elle travaille, en tout cas la personne qui m'a proposé cette question, elle travaille avec des personnes qui ont un trouble du spectre autistique. D'ailleurs, dans ce cas-là, elle s'y connaît sûrement mieux que moi. Mais si c'est le cas, je pense que les discussions d'équipe, le lien et l'écoute de ces personnes permet de ne pas être submergé par la clinique. Je comprends en tout cas ce besoin de se questionner plus sur le diagnostic, mais parfois c'est aussi très défensif. Lorsqu'on est peut-être trop dans la recherche de mettre un nom ou rapprocher une pathologie, de différencier, de mon point de vue, la relation elle peut disparaître aussi. Donc voilà, à questionner. Ensuite, une question, est-ce qu'il vaut mieux TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale, ou psychanalyse en temps de dépression ? Et je vais d'ailleurs rapprocher cette question d'une autre. On me demande, est-ce qu'une thérapie peut aboutir sur un patient avec une pathologie psychiatrique type bipolarité ? Je rapproche ces questions parce qu'en fait, il y a beaucoup de questionnements autour de l'efficacité de la thérapie ou du choix de la thérapie pour traiter ou accompagner telle pathologie, tel vécu, etc. Alors c'est compliqué parce que je peux pas amener de réponse générale. C'est comme si on disait à quelqu'un, je sais pas, pour retaper ma maison, est-ce qu'il vaut mieux un plombier, un maçon, est-ce qu'il faut un décorateur, et la peinture, est-ce que je prends du vert ou alors est-ce que je prends du bleu. Vous voyez, c'est qu'en fait, moi j'ai pas vu votre maison. J'ai pas vu ce sur quoi il faudrait se pencher, ni sur les travaux en tant que tels, est-ce qu'ils sont réalisables par telle personne, telle autre, et combien de temps ça va prendre, enfin, j'en ai aucune idée parce que c'est très abstrait. Là où je peux donner des pistes, par contre, c'est sur le sens de la thérapie, de la rencontre, qui est avant tout un moteur de soins. D'une part, individuellement, quand on se pose la question de TCC ou de psychanalyse pour la dépression, c'est se questionner en termes de besoins. Qu'est-ce qui a déjà été entrepris ? Est-ce que c'est un symptôme isolé et que peut-être il suffirait d'aller modifier certains comportements, certaines croyances pour qu'il y ait un levier ? Ou peut-être que le besoin c'est plus du côté justement de l'écoute du comportement et un besoin d'action dans l'ici et le maintenant ? Ou justement peut-être que ce besoin il semble s'inscrire dans une volonté d'ouvrir un petit peu plus la boîte de Pandore, donc un fonctionnement qui s'inscrit depuis plusieurs années ? Peut-être de façon d'ailleurs silencieuse, ou au-delà du symptôme, il y a des choses peut-être qui démangent, qui interrogent et qui sont peut-être à penser dans une histoire familiale ou dans son interprétation de certaines expériences. Donc peut-être une démarche qui demande à s'inscrire dans un temps plus long, afin d'interroger peut-être avec une loupe plus éloignée sur ce qu'on est. Puis d'ailleurs, ça dépend aussi de ce qu'on cherche. En fait, est-ce qu'on cherche la disparition de la dépression ? Est-ce qu'on cherche le changement de comportement, le changement d'habitude ? Est-ce qu'on cherche le bonheur ? Est-ce qu'on cherche à être aussi performant que telle personne ? Enfin, c'est pour ça que c'est très différent d'une personne à l'autre aussi. Donc c'est pareil que pour la thérapie avec un patient qui a une pathologie psychiatrique type bipolarité. Bah en fait, qu'est-ce qu'on entend par aboutissement ? Est-ce qu'on a envie que la personne soit plus bipolaire ou ne plus être bipolaire ? Est-ce qu'on a envie de plus être en souffrance ? Ou alors d'être adapté avec la société de nos jours ? Qui attend ça ? C'est le thérapeute ? C'est le patient ? Donc bien sûr qu'une thérapie, elle aura un aboutissement, mais c'est surtout de quel aboutissement on parle. C'est vrai que dans les pathologies psychiatriques, à l'heure actuelle, c'est difficile d'entendre le terme de guérison, je trouve, dans les discours médicaux. Mais en fait, la représentation de la guérison, elle est assez singulière. On peut se dire qu'on n'est plus en souffrance, qu'on fait quelque chose qui nous plaît, avec des personnes où on se sent bien, et avoir toujours une vulnérabilité plus importante que la population générale, à décompenser, par exemple. Pour autant, la thérapie, elle permettra quand même de se connaître, ce qui me semble être une clé importante. C'est une façon d'être en capacité de s'écouter, de demander de l'aide, d'être curieux, bienveillant avec soi-même. Donc même si on est bipolaire, si on en est là, c'est qu'il y a un aboutissement assez impressionnant aussi. Parce que comme la dépression, il n'y a pas deux personnes qui ont la même dépression et deux personnes qui ont la même bipolarité. Donc c'est à voir d'une personne à l'autre. On est toujours du côté de l'avoir et pas de l'être. C'est pour ça que tout l'enjeu sera aussi d'être, en fait. De ne pas être défini par une maladie psychiatrique ou autre qui graverait comme ça au fer rouge un destin, un avenir. Voilà. Est-ce que la conscience est ce que l'on croit savoir et donc l'inconscient serait la pile de nos ressentis, pensées, souvenirs dont l'individu ne peut rien en dire mais l'expérience, la réflexion permettent d'affirmer l'existence en chaque personne. Je suis pas sûre d'avoir bien compris la question, faudrait peut-être que je m'y penche un peu plus, mais la conscience, elle est pas que porteuse de la perception de la réalité. La conscience, elle est quand même pilotée par des désirs, des pulsions, par la partie immergée hein, de l'iceberg, donc l'inconscient. Certains, ils pensent que la conscience... que dans ce que l'on voit, donc de façon descriptive, mais la conscience, elle peut être aussi entendue dans une construction, donc on est conscient avec un ensemble de facteurs, des expériences, des pensées, des normes sociales, culturelles, on est conscient avec notre corps, donc pour moi c'est pas une perception universelle. Après c'est pas faux, hein, l'idée que la conscience est ce que l'on croit savoir, mais j'ajouterais quand même qu'on ne sait plus ce qu'on sait. C'est-à-dire que la conscience, elle est là, elle nous habite, mais on n'a pas conscience d'avoir conscience. Du monde ne se dit pas à longueur de journée, tiens, là, j'ai conscience de ça, j'ai conscience de ci, et heureusement d'ailleurs. D'ailleurs, on parle beaucoup aussi d'agir en pleine conscience maintenant, il y a même des exercices, des formations, des cours. Alors qu'on pourrait se dire que ça serait assez évident, mais visiblement non. Donc j'ai presque envie de dire que déjà habiter un peu plus sa conscience, comment elle se déroule, c'est déjà quelque chose. Et l'inconscient, en effet, on n'y a pas accès en tant que tel, donc c'est un réservoir qui peut justement, en effet, agir par les expériences et donc nous permettre, par ses conséquences, d'avoir une certaine réflexion. Alors, que penses-tu des patients qui sont en perpétuelle demande de plan d'action pour aller mieux et comment tournes-tu les choses pour éviter d'être dans cette position délicate du sachant ? Alors déjà, la position de sachant, elle est là dans tous les cas. Il faut pouvoir la porter, selon moi, sans s'en servir. Ça, c'est très important. C'est-à-dire être au clair avec l'idée qu'il y a cette illusion qu'on a un savoir sur l'autre, mais pour autant ne pas agir comme tel. On ne sait pas, en fait, ce qui est bon ou mauvais, ou comment faire pour telle personne, ou ce que tel autre a vécu dans sa vie. C'est quand même une forme d'illusion. Enfin, moi, j'ai aucune idée quand je reçois un patient que dans son enfance, il a vécu telle chose ou qu'il devrait dire tel truc à sa mère ou je ne sais quoi. même si voilà, je peux porter cette position de sachant pour l'autre, je m'en sers pas. Après, donc, la demande de plan d'action, je pense que c'est assez normal, en fait. Il faut quand même se représenter que c'est difficile, quand on ne va pas bien, depuis un certain temps, d'avoir besoin que ça aille vite, que l'on puisse donner une recette miracle, un plan détaillé à suivre, qui assurerait un renouveau très rapide. Donc c'est très normal et entendable, hein, pour quand on reçoit quelqu'un qui est en souffrance. Après, ça dépend quand cette demande elle vient. C'est-à-dire que moi, quand je rencontre un nouveau patient, je laisse venir la demande, je laisse venir les besoins, le pourquoi on se rencontre aujourd'hui. Et donc, certains patients vont avoir une demande très précise, d'autres non. Ils ne savent pas exactement, mais ils sont là. Et je prends toujours un moment à la fin pour expliquer comment je travaille. Donc, d'une certaine façon, le patient, il sait qu'il n'a pas en face de lui un technicien, que mon approche, elle ne comporte pas des exercices ciblés ou des plans d'action à reproduire. Peut donc avoir envie de rencontrer d'autres thérapeutes qui vont peut-être répondre différemment à leur attente. Après, voilà, la personne, elle sait cognitivement, mais ça ne veut pas dire qu'elle sait toujours psychiquement. Donc, comme je disais dans mon épisode sur aller voir un psychologue, le patient, il peut venir parce qu'il a besoin de reconsolider certaines choses. Dans ce cas-là, mon travail va être un petit peu plus orienté dans ce sens-là, et donc plus dans un appui pour amener de la pensée et donc du changement dans ce qui est difficile pour lui ou elle. Et dans ces moments-là, c'est aussi possible qu'à un moment de la thérapie, le ou la patiente témoigne d'une envie, d'un exercice clair, d'une démarche à suivre, ou de réponse à ces questions. Et pour moi, dans ces cas-là, c'est pas en fait de trouver une bonne entourloupe pour ne pas répondre, mais plutôt en fait de le prendre comme du matériel qui vient dans la séance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour que la personne ait envie d'une liste à faire, qu'elle a besoin d'être rassurée, qu'elle a un besoin très technique, d'une certaine façon, donc qui pourrait presque se détacher du caractère affectif, introspectif. C'est-à-dire pourquoi le ou la patiente veut sortir de ce temps-là, ou peut-être qu'il allait vers quelque chose qui l'amenait dans un caractère plus hors maîtrise. C'était peut-être compliqué. Ou alors pourquoi d'un coup il attaque peut-être le travail. Il aimerait arrêter de penser pour suivre une démarche qui est donc hors pensée, parce que clairement, si je donne une liste de comportements à effectuer, on n'est plus dans la pensée. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion hier que la plupart des patients qui arrivent avec des demandes, c'est-à-dire ceux qui disent « ben voilà, je viens parce qu'il faut me dire quoi faire, j'ai besoin de savoir si je veux qu'on m'aide à prendre une décision », ben, c'est souvent les patients qui n'ont pas envie de ça, et surtout qu'ils ont besoin qu'on puisse proposer une autre réponse. Donc si quelqu'un vient dire ben, « j'ai besoin qu'on m'aide pour savoir si je dois quitter mon mari ou ma femme », par exemple, un truc qui peut arriver, hein, ben, en fait, si vous essayez de dire ben, « pour vous aider à vous séparer de votre mari ou votre femme, mettez en place ci, faites ça, puis après vous fonctionnez comme ça ben, », en fait, les patients ne reviennent jamais, hein. Par contre, pouvoir se dire « ok, visiblement, c'est difficile de partir, mais qu'est-ce qui se passe pour vous ?» Là, il y a quelque chose qui peut commencer. Après, ça va en fonction de chacune des situations, bien sûr. Allez, je prends une dernière question, assez marrante, je trouve. La question, c'est « est-ce qu'on peut offrir un cadeau à sa psy ?» Donc là, visiblement, c'est une psychologue femme. « Pour les fêtes ?» ou pour remercier de la fin d'un travail, ou est-ce que c'est du transfert? Donc en gros, est-ce qu'on peut faire un cadeau à son thérapeute, ou est-ce que c'est du transfert? Et j'ajoute que voilà, la personne dans son mail me disait aussi qu'elle avait rencontré sa psy dans une institution, donc elle payait pas directement sa psy, et qu'elle était aussi embêtée, parce qu'elle se sentait redevable. Donc c'est vraiment intéressant, je pense que vous avez écouté en plus mon épisode sur le cadre. Si c'est déjà pas fait, je vous invite à aller le faire, parce qu'en plus j'ai reçu énormément de témoignages ou de retours sur l'argent et la dette avec le psy. Donc l'importance d'avoir une monnaie d'échange, souvent l'argent, parce que c'est un petit peu plus simple en pratique libérale, mais quand c'est en institution, c'est vrai que la monnaie d'échange, elle est à questionner aussi. Donc je pense qu'offrir quelque chose, donner quelque chose, que ce soit, je sais pas, des chocolats ou autre, faut pas s'en priver. Je dis pas ça parce que j'adore recevoir des cadeaux ou du chocolat, hein, mais souvent, en fait, quand un patient peut aborder ça, soit offrir un cadeau, soit régler son psy. Pour certains, ça aide parce qu'en fait, la dette, elle est soulagée. Ça permet de faire avancer le travail ou de le terminer. Donner à l'autre, c'est toujours donner à soi. Donc quand vous apportez quelque chose, par exemple un cadeau à la fin du travail ou pendant les fêtes, vous venez aussi remplir quelque chose de vous qui est important. Mais ça, votre psy peut l'entendre. C'est difficile des fois de se sentir en dette, et si le travail a eu particulièrement de l'importance pour vous, pour certains, ça va être essentiel de sentir qu'ils y ont participé, financièrement ou autre. Ça veut pas dire qu'on est dans le besoin d'être dans cette dette-là, mais ça peut avoir du sens. Et c'est l'idée aussi que vous avez investi dans cette écoute. Donc des fois, offrir une boîte de Ferrero, ça peut vraiment en fait aussi être thérapeutique aussi. Ou en tout cas avoir du bénéfice dans cet espace-là. Faut pas avoir peur du transfert. Il y en a de partout du transfert et heureusement. On s'en fiche, il faut faire comme on est. Le but c'est pas de dire « Ah mince, ça va être du transfert ». Non. Vous avez envie d'offrir un truc, envie de dire quelque chose à votre psy, dites, c'est le meilleur moyen en tout cas que les choses avancent. Voilà. J'espère que cette FAQ vous aura plu, que ça n'a pas été trop long. Je vous souhaite de bonnes fêtes. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode où je vous parlerai des projets de l'année 2021 pour ce podcast. Comme ça, après, on redémarre l'année avec des nouveaux épisodes et puis j'aurai pu un petit peu plus vous parler de la tournure un petit peu de ce podcast et de cette aventure qui m'anime énormément et qui, j'espère, continue à vous plaire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, encore une fois des bonnes fêtes, et puis je vous dis à très vite. Salut !
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.